Alors en fait, contrairement à ce que j'avais indiqué de manière un peu large au début, lorsque j'ai proposé cette communication, je ne vais pas pouvoir vous parler en général de la réception des œuvres d'Annie Arnaud. En fait, je me suis plutôt focalisée sur la réception d'un certain type d'ouvrages qu'on appelle les ouvrages sociaux d'Annie Arnaud, et moins ceux qui impliquent une dimension très nette de genre. Tous les ouvrages d'Annie Arnaud comportent une dimension sociale affirmée, mais il y a certains ouvrages, notamment Passion simple, ou encore Se perdre, ou L'événement, qui comportent une dimension du genre qui est déterminante aussi pour comprendre les appropriations. C'est pas tellement sur ces aspects-là que je me focalise aujourd'hui, parce que ça aurait été trop long, mais plutôt sur la réception des ouvrages dits sociaux, c'est-à-dire ceux où elle écrit sur la honte sociale de manière générale. Alors, en principe, avec un public d'enseignants ou d'étudiants, c'est pas forcément très utile de rappeler qui est Annie Arnaud et quel type d'œuvre elle écrit, puisqu'elle est beaucoup lue, en particulier parmi les enseignants. Je vais juste en dire quelques mots rapidement, vous expliquer ensuite sur quel type de matériaux j'ai pu travailler et quel type de problème ce matériau pose à un sociologue. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques grands résultats auxquels j'ai pu aboutir dans ces études de réception. Alors la première chose que l'on peut dire, c'est qu'Annie Arnaud revendique une position originale, sinon totalement marginale dans le champ littéraire contemporain. Elle affirme dans un ouvrage qui est paru en 88 qui s'appelle Une femme, qui porte sur la trajectoire de sa mère, elle dit qu'elle entend placer son œuvre au-dessous de la littérature, quelque part entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Sa démarche est donc située à la croisée de l'autobiographie littéraire et de ce qu'on pourrait appeler une forme d'auto-socio-analyse. En tout cas, globalement, il s'agit pour elle, dans son œuvre, de retracer tout au long de ses récits, qu'ils soient implicitement autobiographiques, comme il l'était en tout début de carrière, c'est-à-dire au moment de l'entrée en écriture, c'est 1974, Les armoires vides. Et ces ouvrages deviennent explicitement autobiographiques à partir de 1981 et d'un ouvrage qui s'appelle La femme gelée. Mais c'est surtout à partir de La place que cette dimension est pleinement affirmée, donc La place qui paraît en 1984 et qui la fait connaître puisqu'elle reçoit le prix Renaudot pour cet ouvrage. Dans tous ces ouvrages, donc, elle essaye de retracer sa trajectoire sociale en essayant de faire un travail de sociologue, c'est-à-dire en fournissant un certain nombre d'éléments d'analyse sociologique, tant de sa trajectoire sociale que des effets qu'elle a produits sur son écriture. Les thèmes qu'elle aborde sont relativement peu habituels, au moins sous cette forme systématique en littérature. Et par ailleurs, le style qu'elle construit progressivement est lui-même particulier. Globalement, elle cherche à rendre compte de ses propres conditions sociales de production, ainsi que de celles de ceux qu'elle appelle ses semblables sociaux. Globalement, toute l'œuvre décrit les effets des déplacements dans l'espace social sur les perceptions du monde social et politique au sens large du terme, les effets de la confrontation avec la culture légitime par le biais de l'école, la rupture que cette confrontation introduit par rapport au milieu d'origine. L'auteur est fille d'ouvrier, devenu cafetier épicier en zone rurale dans l'immédiate après-guerre. Annie Arnaud est née en 1940. Et elle raconte également les malaises qu'une telle trajectoire sociale ascendante crée chez les individus qui l'expérimentent. Elle est d'une certaine manière un peu le prototype de la fille de la coursière. Elle a suivi sa scolarité dans un lycée privé. Elle a ensuite entamé des études de lettres modernes jusqu'au CAPES et puis plus tard l'agrégation de lettres modernes. Et parallèlement, à partir donc du milieu des années 70, elle a commencé à écrire. Alors, elle aurait pu vivre de sa plume. En fait, elle a continué à enseigner jusqu'à la fin de sa carrière. Simplement, elle est devenue ce qu'elle appelle elle-même une prof sans élève, puisqu'elle est devenue enseignante au CNED pour des raisons qui sont présentées essentiellement comme étant des raisons de santé. Autrement dit, ce qui est mis en récit dans ces ouvrages, c'est l'idée de trahison de classe et de honte sociale, notamment la honte des parents, la honte des origines et la honte de cette honte. Et le style qu'elle construit pour décrire ce parcours de sortie des catégories populaires est un style lui-même évolutif. C'est un style qui tend de plus en plus à se dépouiller des attributs stylistiques habituels en littérature pour atteindre cette fameuse écriture blanche et qu'elle appelle aussi une langue des choses pour décrire le monde et devenir ce qu'elle appelle l'ethnologue de soi-même. Elle est également soucieuse d'éviter le double écueil qui avait été pointé par Jean-Claude Passeron et Claude Grignon dans le savoir populaire, écueil misérabiliste et populiste. Je disais tout à l'heure qu'Annie Arnaud dit que si elle avait lu le savoir populaire avant d'écrire La Place, elle n'aurait déjà probablement pas écrit de la même façon. Alors, ce qui est caractéristique aussi de cette écriture, c'est qu'elle est très instruite sociologiquement. Et que Annie Ernaux s'intéresse à la sociologie depuis toujours, depuis plus longtemps même qu'elle n'a pu nous le dire au départ en entretien. Elle a eu une confrontation au départ universitaire avec la sociologie quand elle faisait ses études de lettres, mais elle s'était inscrite dans une section où la sociologie dominante était la sociologie de Raymond Boudon, et elle avait été très déçue, et du coup elle avait arrêté. Et du coup elle s'est uniquement consacrée à ses études de lettres. Mais malgré tout, on sait par exemple qu'elle fait partie des premiers abonnés à la revue de la recherche en sciences sociales, dès le premier numéro, et que par ailleurs, elle connaît tout un tas de revues sociologiques, et qu'elle entretient des sociabilités depuis le milieu des années 80 avec des sociologues, que ce soit des sociologues de l'éducation ou de la famille, et qui sont globalement des sociologues de la domination, en tout cas, voilà, qui sont intéressés par... Les approches de Pierre Bourdieu en particulier. Alors, d'un point de vue sociologique, ce qui est intéressant, c'est que Annie Ernaux propose des interprétations de sa trajectoire, des interprétations qui apparaissent la plupart du temps sociologiquement plausibles, ce qui contraint le travail du sociologue et ce qui le contraint d'autant plus qu'Annie Ernaux fait partie de ses auteurs. C'est un des points sur lesquels on n'est pas très d'accord, parce que c'est une analyse qu'elle rejette. Qui cherchent par plein de moyens à encadrer leur réception. Donc elle multiplie dans la presse, à la publication de chaque ouvrage, les discours d'accompagnement pour dire voilà ce que ce livre est, voilà ce qu'il n'est pas, voilà comment vous devez le comprendre. Et c'est évidemment une manière de contraindre, en tout cas elle le cherche, les discours de réception des critiques littéraires, mais c'est aussi d'une certaine manière une façon de contraindre l'interprétation que les sociologues pourrait donner de son œuvre. Donc encore une fois, sociologue qui s'intéresse à elle depuis les années 80. Moi, quand j'ai commencé ma thèse en 92, il n'y avait pratiquement pas de travaux littéraires sur l'œuvre d'Annie Ernaux en France. Ces travaux littéraires n'existaient que dans les pays anglo-saxons. Et les anglo-saxons se l'appropriaient de deux manières. Il y avait deux grands types d'appropriation. Une appropriation de type social autour de cette question de la honte sociale, et puis une appropriation plus centrée sur la dimension sexuée de ces travaux. Mais en France, à l'époque, il n'y avait pas de travaux, pratiquement pas de travaux de littéraires là-dessus. Quelques travaux de sociologues, mais surtout, c'était des rencontres. En fait, elle était régulièrement invitée à certains de leurs séminaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Annie Ernaux va de plus en plus mobiliser cette ressource sociologique qu'elle possède de mieux en mieux au fil du temps, même si encore une fois son intérêt pour la sociologie a été pratiquement immédiat. Elle s'est mise de plus en plus à utiliser cette ressource sociologique, et donc elle brouille d'une certaine manière les frontières entre ces deux genres traditionnellement ennemis, la littérature et la sociologie, et elle le fait d'autant plus qu'elle commence à être critiquée et mal reçue par la critique littéraire au moment de l'apparition de Passion simple en 92. Et moi, j'ai commencé ma thèse à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où l'apparition de cet ouvrage suscite une polémique critique extrêmement violente dans les arguments échangés, et où j'ai découvert progressivement que certains critiques littéraires qui avaient pu encenser l'œuvre une décennie auparavant, les mêmes, se mettaient à la revisiter négativement au moment de l'apparition de Passion simple. Et donc c'est de cet étonnement en fait qu'est né aussi en partie mon travail de thèse. Donc il faut vraiment avoir en tête que c'est au moment où elle prend le risque d'être disqualifiée aux frontières du champ littéraire légitime qu'elle va mobiliser encore plus fréquemment qu'avant la ressource sociologique. Donc moi ce que j'ai cherché à faire dans ma thèse, c'est à la fois de travailler sur les conditions de production de cette œuvre, sur l'évolution générique stylistique, sur son positionnement dans le champ littéraire, et puis deuxième aspect, essayer de faire tenir ces conditions de production avec les conditions de réception, en travaillant de manière concentrique sur les réceptions qui ont été les siennes. Alors j'ai commencé par travailler sur les réceptions les plus proches du champ littéraire, celles des critiques littéraires. Ensuite, je me suis intéressée aux réceptions de ce que j'ai appelé des médiateurs du livre, c'est-à-dire essentiellement des bibliothécaires et puis des professeurs de français. Ça fait partie des limites du travail de thèse, c'est quelque chose que j'ai réalisé en fait à la toute fin du travail de thèse, c'est que certes elle apparaissait dans certains manuels de français, mais pas n'importe lesquels, essentiellement des manuels en direction des lycées professionnels. Elle n'était pratiquement pas utilisée dans les manuels de français en direction des sections générales, donc ça m'avait interpellée, mais en fait j'ai réalisé après coup qu'elle était par contre utilisée, et depuis un moment, dans les manuels de sciences économiques et sociales justement. Donc ça par contre, je n'ai pas du tout travaillé là-dessus parce que malheureusement je l'ai vu trop tard. Enfin, dernier élément, j'ai travaillé sur un matériau qui est assez original, en tout cas pour un auteur vivant, c'est son courrier des lecteurs, puisqu'Annie Ernaux m'a donné accès à la totalité de son courrier des lecteurs pour tous les ouvrages, donc de 1974 jusqu'au moment où je faisais ma thèse, c'est-à-dire 1998. Où elle venait de faire paraître deux ouvrages simultanément, La honte et Je ne suis pas sortie de ma nuit. Et donc elle m'a donné accès sans condition à la totalité des lettres qu'elle avait reçues donc, depuis le départ. C'est intéressant dans la mesure où Annie Ernaux a gardé la totalité du courrier qu'elle reçoit, elle l'archive et elle en a d'autant plus qu'elle répond. Et elle répond de manière individualisée à toutes les lettres qu'elle reçoit. Donc ce qui est intéressant quand on a le courrier, c'est que parfois on suit des trajectoires aussi de lecteurs qui l'ont découverte assez tôt. Il y a plusieurs moments dans la réception d'Annie Ernaux, certains la découvrent qu'en 92 au moment de Passion simple, mais d'autres l'ont découvert dès 74 et se sont mis à la suivre régulièrement. D'autres la découvrent au moment de La place en 84, mais on peut suivre parfois, il y a 3, 4, 5 lettres parfois des mêmes lecteurs qui se mettent à lui écrire régulièrement. Alors, par ailleurs, il faut savoir que c'est une écrivaine qui est beaucoup lue en une période où l'édition traverse une phase plutôt morose. Elle est beaucoup lue tant en première édition que lors des rééditions successives en poche. Ce succès ne s'est pas démenti, ça a démarré doucement avec le premier livre, mais à partir de 1984, le succès est constant. Donc, d'un point de vue sociologique aussi, ce genre de succès librairie est toujours intéressant. Là, avec le dernier opus, Les années, dès la première semaine, l'ouvrage était classé troisième dans les chiffres des ventes, alors même qu'elle avait fait très peu de promotion. L'aspect qui est également intéressant, je le disais, c'est qu'Annie Ernaux donc, a un rapport particulier avec ses lecteurs. Alors aujourd'hui, elle a tendance à dire qu'elle s'est toujours intéressée à ses lecteurs, qu'elle a toujours prêté la plus grande attention aux lettres qu'elle recevait. En fait, on s'aperçoit qu'elle a commencé surtout à s'intéresser à ses réceptions que j'ai appelé faute de mieux ordinaire, c'est-à-dire par tout le monde, au moment où précisément elle commençait à être mise en cause par la critique littéraire. Ce n'est pas un hasard si en 1992, au moment où Passion simple suscite une polémique critique importante, elle va produire comme justification des extraits de lettres de ses lecteurs dans un dossier spécial de l'événement du jeudi, puisque la réception s'était organisée, les pour, les contre, etc. Donc ça devient progressivement une ressource. La seule qu'elle considère dans l'ordre du discours comme étant légitime, en tout cas, plus elle dit être plus intéressée par les appropriations des lecteurs ordinaires que par les appropriations de la critique. Donc c'est évidemment pour elle un capital spécifique hein, qui lui permet de se défendre lorsque les instances critiques deviennent trop critiques. Alors, quelques mots maintenant sur la difficulté de traiter un tel matériau et sur les chances que j'ai eues finalement lorsque je l'ai découvert. C'est un matériau, donc je l'ai dit, qui est rare pour un auteur vivant. Certains historiens ont pu travailler sur la correspondance reçue par des écrivains, mais qui étaient des écrivains décédés. Les écrivains contemporains sont très jaloux en général de ce type de document, et donc c'était un matériau qui était intéressant. Intéressant aussi parce qu'il permet d'avoir une idée assez précise des réceptions qui ne sont pas des réceptions lettrées au sens de la critique littéraire ou semi-lettrées, celles de certains médiateurs du livre. Les lectures ordinaires, par définition, sont toujours plus difficilement appréhendables. elles sont moins communément formulées, moins faciles à trouver. Rares sont ceux qui ne sont pas des professionnels de l'écriture qui confient d'une manière directe ce qu'est leur pratique du livre. Alors, globalement, donc, j'ai travaillé sur à peu près 3000 lettres, une cinquantaine de lettres pour les premiers ouvrages, Les Armoires vides et Ce qu'ils disent ou rien. Ensuite, le courrier a commencé à être plus important à partir de la place, ça représente à peu près un quart de mon corpus. Et Passion simple, qui représente le moment où elle reçoit le courrier le plus volumineux de sa carrière. Les lettres relatives à Passion simple représentent à peu près la moitié du corpus que j'ai, sur lequel j'ai travaillé. Et puis après, c'est plus résiduel. Une femme, c'est 4% des lettres. La honte, 13%. Je ne suis pas sortie de ma nuit, 9%. Alors, lorsque... Donc, ces courriers sont très différents. Alors, elle me dit qu'elle m'a tout donné. En fait, il y a une partie qui a été perdue et elle a retiré tout ce qui est simple carton de collègues. Voilà. Mais elle dit qu'elle m'a donné la totalité de ce qu'elle avait reçu. Alors, la question que je me suis posée quand j'ai reçu ce matériau, c'est comment le traiter. Moi, j'ai commencé à le lire. C'est un matériau particulier dans la mesure où certaines lettres représentent une dizaine de lignes, mais certaines font 10, 20 pages. Puisque à leur tour, un certain nombre de lecteurs se mettent comme une sorte de don reversé, l'expression d'Aniel, mais ils la reprennent à leur compte, en retour à lui raconter leur propre trajectoire. Donc c'est un courrier qui est inégal en termes de contenu et qui était très dense, qui par ailleurs mettait le sociologue dans une position assez inhabituelle qui moi m'a mis mal à l'aise, je dois le dire, parce que j'étais en train de lire et je m'apprêtais à étudier un courrier qui ne m'était pas adressé, qui n'avait pas vocation à être rendu public, et qui, par ailleurs, charriait beaucoup de souffrances sociales. Donc c'était difficile pour moi. Et donc, du coup, compte tenu de la masse critique, j'ai décidé de faire une première analyse quantitative de ce courrier. Donc j'ai réalisé une sorte de prosopographie des lecteurs correspondants. J'ai cherché à recueillir des indications de type sociodémographique. Alors là aussi, j'ai été aidée par la particularité du courrier de Damiano, c'est que dans pratiquement les trois quarts des lettres, les correspondants se livrent et donnent des détails extrêmement précis concernant leurs caractéristiques sociales. Donc au minimum, vous avez la profession du père et de la mère, souvent des grands-parents, vous avez évidemment le lieu de résidence, vous avez toute la trajectoire scolaire, la profession du conjoint, le type de profession exercée. Donc ça, c'est évidemment, pour moi, c'était essentiel, parce que sinon, je n'aurais pas pu objectiver ce courrier. Et puis ensuite, j'ai relevé d'autres éléments multiples dans les lettres. Est-ce qu'il y avait un titre qui permettait au scripteur de s'autoriser à écrire à cet écrivain qu'il ne connaissait pas, mais qui était reconnu, dont par ailleurs il se sentait proche? Qu'est-ce qui était mis en avant? Est-ce qu'on évoquait le style des ouvrages ou uniquement leur contenu? Est-ce qu'on faisait référence à d'autres ouvrages antérieurement lus? Est-ce qu'on faisait référence à une critique littéraire? Est-ce qu'on faisait référence à un passage à la télévision? Qu'est-ce qui était mis globalement en avant dans la lettre? Quelle était la forme de la lettre? Manuscrite, pas manuscrite? Il y a des gens qui envoient des poèmes, des dessins, donc des manuscrits. Enfin, bon, il y a une multitude de possibilités. J'ai essayé de tenir compte dans l'analyse du maximum d'éléments. Et puis ensuite, je me suis livrée à une analyse plus qualitative, cette fois-ci en termes d'appropriation réellement. Sachant que la première objectivation statistique m'a permis à moi de redresser un certain nombre d'hypothèses de départ et d'en formuler d'autres. Donc cette double approche, pour moi, elle a été vraiment essentielle. L'hypothèse, hein, c'était d'essayer de voir si se dégageaient des réceptions, des sortes de communautés d'interprétation, des sortes de communautés électives à distance, des communautés en pointillés qui se dessineraient dans les réceptions, c'est-à-dire des groupes de lecteurs qui partageraient le même style de lecture et une même stratégie relativement identifiable d'interprétation. Le but, ce n'était pas non plus de m'interdire d'analyser le matériau dans ses spécificités, notamment la dimension du genre est apparue assez rapidement, notamment pour la réception d'ouvrages comme Passion simple, par exemple. L'hypothèse de départ de la recherche, c'était que la lecture des récits d'Annie Ernaux était susceptible de permettre au lecteur d'activer, de consolider de transformer des représentations du monde social et de soi, de sa propre place dans le monde social, de faciliter la gestion de trajectoires sociales improbables, souvent douloureusement vécues, et dont, par hypothèse, on pouvait trouver des traces, appropriation dont on pouvait des traces dans la correspondance lectorale. Ce qui était frappant aussi, c'est que le fait d'écrire à l'auteur, de s'autoriser ce geste, était la plupart du temps fait, et le lecteur l'indiquait, immédiatement après la lecture du livre. Donc c'était vraiment une réaction souvent à chaud. Alors, sachant que Annie Ernaux archive les courriers reçus par date, et que moi j'ai tout pris, c'est une dimension que je n'ai pas traitée, parce que ça faisait trop, j'ai, au niveau des dates, la plupart du courrier qu'elle reçoit, c'est un courrier qu'elle reçoit au moment de l'édition originale. Mais évidemment, il y a aussi des lecteurs qui la découvrent ensuite au moment de la sortie en poche. Et donc, la temporalité des réceptions est différente. Ça, c'est un aspect dont je n'ai pas pu tenir compte. Donc, l'idée, c'était de montrer que dans ces réactions immédiates à la lecture, ce qui était formulé, c'était des impressions qui, jusqu'alors, étaient parfois confuses, parfois refoulées. Et que la lecture d'Annie Ernaux, c'était à la fois une lecture parfois de pacification par rapport aux origines, qui participait à des formes de construction et de reconstruction de soi, à modifier le rapport au monde social et politique. Voilà. Alors bon, il y a plein de choses dont qu'on pourrait dire sur ce courrier. Évidemment, les lecteurs qui écrivent à Annie Ernaux ne peuvent en aucun cas être considérés comme représentatifs du lectorat général d'Annie Ernaux, mais cette population mère, par définition, elle est impossible à saisir sociologiquement. On n'a aucun moyen de savoir quels sont tous les lecteurs d'un écrivain. Donc c'est un type particulier d'échantillon spontané. Moi, j'ai formulé l'hypothèse que, effectivement, on avait parmi ces lecteurs les lecteurs les plus mobilisés, probablement aussi parmi les plus fidèles de l'écrivain, et qui avaient par ailleurs toute probabilité de présenter des propriétés atypiques par rapport à son lectorat d'ensemble. Mais bon, en même temps, enfin voilà, l'un des problèmes lorsqu'on travaille sur la réception, c'est toujours la question de comment on fait, les matériaux, etc. Celui-là, il n'est pas parfait, il présente des biais, mais bon, voilà, il fallait quand même bien faire quelque chose. Alors, quelques résultats maintenant. Parmi les variables discriminantes, puis ensuite je donnerai quelques éléments sur les appropriations concrètes. Le genre, je l'ai dit, des correspondants, est une variable qui est relativement discriminante. Alors, relativement discriminante parce que de fait, les lectrices apparaissent plus mobilisées dans le courrier que les lecteurs. Il y a plus de femmes qui écrivent que d'hommes. Les lettres de femmes, c'est à peu près les deux tiers de l'ensemble du corpus étudié. Toutefois, les choses varient en fonction du type d'ouvrage concerné. Les femmes représentent 69% du courrier reçu pour La Place et la Honte. La proportion tombe à 61% pour Passion Simple. Autrement dit, Passion Simple est l'ouvrage pour lequel Annie Ernaux reçoit le plus de lettres masculines. Donc, ce qui est intéressant parce que ça va à l'encontre d'une impression première qui avait été mise en évidence par les critiques masculins. L'un des registres officiels et premiers de disqualification de Passion Simple, c'est un ouvrage de midinette pour midinette. En gros, c'est Arlequin en guerre mieux. Et donc, c'est un ouvrage écrit par une femme pour des bonnes femmes. Donc, c'était dit pratiquement tel quel. Alors là, effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas que des midinettes dans le courrier adressé à Annie Ernaux. Effectivement, il y a plus de correspondantes que de correspondants. Mais les lecteurs masculins sont également très mobilisés. Parce que, d'ailleurs, c'est un argument qu'elle va utiliser dans le dossier qu'elle va présenter à l'événement du jeudi comme ressource défensive. Alors, si on raisonne à l'inverse, on s'aperçoit que plus de la moitié des courriers masculins sont précisément relatifs à Passion Simple, si on inverse la base. Alors, deuxième élément important, c'est l'âge des scripteurs. Là, il y a des effets de génération qui sont extrêmement importants concernant l'identification projective. L'âge est connu dans plus des trois quarts des cas, donc plus des trois quarts des lettres. Donc les correspondants sont relativement âgés puisque plus des deux tiers ont plus de 40 ans et qu'ils appartiennent aux générations nées entre les deux guerres ou juste au début du second conflit mondial. Alors en même temps, il y a quelques 16% de moins de 30 ans qui sont dans le corpus. Là, on constate l'activité prescriptrice importante des enseignants du secondaire, puisque Annie Ernaux est étudiée dans un certain nombre de classes, et il y a beaucoup d'enseignants qui, probablement après d'ailleurs lui avoir écrit et avoir reçu une réponse, incitent leurs élèves à lui écrire directement. Donc c'est une partie qui semble importante, mais qui est probablement surreprésentée pour des raisons liées à la prescription. Alors, c'est dans les catégories d'âge identiques à celle d'Annie Ernaux que l'identification est la plus grande. C'est là également qu'on trouve le plus d'encouragement à écrire, le plus de remerciements d'origine, de nature diverse, sachant que en fait, on s'aperçoit qu'une variable n'est pas suffisante en soi. L'identification projective, elle va être d'autant plus forte que la génération est la même, mais qu'il y a encore un autre élément commun. Par exemple, être soi-même originaire de catégorie populaire, donc ce que j'appelle ici populaire, c'est ouvrier, employé, petit commerçant ou artisan, se trouver dans une situation de mobilité sociale ascendante soi-même. Pour les courriers concernant les ouvrages sociaux de l'écrivain, c'est 80% de transfuges de classe, tels qu'ils se définissent eux-mêmes. Alors ils utilisent plusieurs mots, transfuges de classe comme elles. Certains parlent de déclassés. D'autres encore évoquent les bâtards culturels, enfin, il y a plusieurs appellations de ce type. L'origine géographique commune vient encore renforcer l'identification. Annie Ernaux est originaire de Normandie, donc il y a aussi beaucoup de Normands qui se reconnaissent dans ce texte. Même chose pour ceux qui ont effectué une scolarité dans le privé, même chose pour ceux qui sont devenus enseignants et enseignants de lettres. Voilà, plus vous cumulez en fait les attributs, et plus assez logiquement l'identification projective est simple. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi parmi cette catégorie d'âge, au titre des appropriations, qu'on trouve le plus d'affranchissement par rapport au code épistolaire habituel. Ce sont les quinquagénaires à l'époque qui s'autorisent le plus d'écart par rapport au code épistolaire, même s'ils sont embarrassés, même s'ils s'en excusent. Mais ils vont dire « Annie, chère Annie, ma sœur, utilisez le tutoiement ». Alors que dans la majorité des autres lettres, on ne retrouve pas du tout ce genre d'adresse familière à l'écrivain. Autre variable qui clive, c'est que ces lecteurs sont pour l'essentiel provinciaux et urbains, actuellement, au moment où ils écrivent à Annie Ernaux, mais qu'ils sont d'origine provinciale et rurale. Là aussi, hein, j'insiste pas, mais on retrouve le même genre d'identification. Cette origine provinciale et rurale fait également que les lecteurs repèrent dans les textes ou s'identifient comme appartenant à des collectifs qu'on pourrait appeler non réalisés en opposition à d'autres. Donc eux s'opposent aux notables, aux bourgeois, aux riches, aux fils ou filles d'eux. On trouve souvent dans les courriers les autres, eux qui s'opposent à nous, hein, donc au moment où on rétrocède la trajectoire, on se classe aussi dans ces collectifs. Donc je le disais, pour l'essentiel, il s'agit de déclasser par le haut, déclasser par la culture, même si rapporté à la population française saisie par génération, le lectorat qui écrit Annie Ernaux est plutôt plus diplômé. Mais là, évidemment, il faut être plus précis et rentrer dans les générations qui sont concernées. Alors, surtout, je terminerai par là, tant qu'il me reste, ce qui est intéressant en termes d'appropriation, c'est ce que ces courriers révèlent de l'expression d'un ethos de classe des transfuges. On peut avancer des hypothèses assez solides dans la mesure où l'origine sociale est indiquée dans 80% des lettres, ou quand les scripteurs écrivent pour les ouvrages sociaux de l'écrivain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il rétrocède toute cette posture ambivalente et marquée par l'insécurité à la culture légitime. Donc un certain nombre sont boursiers, d'autres avaient une une bonne réussite scolaire ont été marquées par un moment d'échec scolaire, ont dû arrêter l'école par obligation. Donc ils rétrocèdent tout ça. Et puis ils évoquent aussi dans leur courrier, de manière extrêmement précise, vous avez un exemplier, vous allez voir ça de façon très précise, ils rappellent ce sentiment de double non-appartenance, ce sentiment d'entre-deux, cette honte sociale tenace avec tous les effets d'hystérèse qui y sont associés, y compris lorsqu'on a quitté définitivement la classe d'origine. Alors évidemment, il y a une dimension qui est également essentielle, c'est que cette honte sociale, elle est d'autant plus en général douloureusement vécue que la pente de la trajectoire est forte. Évidemment, dans le courrier, rares sont les lecteurs qui connaissent une dérivée de trajectoire aussi forte que celle d'Annie Ernaux. Les positions atteintes sont souvent éloignées de la position d'origine, mais pas tant que dans le cas d'Annie Ernaux. Et ça, cette dimension de la dérivée de trajectoire, elle est très importante aussi pour comprendre de manière plus fine les appropriations dont l'œuvre est l'objet. Il rétrocède un certain nombre de souvenirs, d'événements qui, pendant leur enfance, ont été marqués par ce sentiment de honte des parents. Certains insistent beaucoup sur le caractère refoulé d'un certain nombre de souvenirs qui sont revenus avec souvent beaucoup de violence à la lecture des ouvrages d'Annie Ernaux. Et puis, bon, ce qui est intéressant également dans ce courrier, c'est que les lecteurs verbalisent les humiliations qu'ils ont subies, dont ils n'avaient jamais parlé. Beaucoup de lecteurs font référence au fait que ce parcours de sortie de la classe d'origine a été caché à l'entourage actuel, le conjoint, lorsqu'il vient d'une autre catégorie sociale, plus proche du milieu d'accueil, la famille du conjoint, les amis du conjoint, d'où aussi la difficulté parfois à conseiller ou à prescrire les ouvrages d'Annie Ernaux, parce que ça serait se dévoiler soi-même. Alors certains vont se saisir de ça pour dire ce qu'ils n'avaient jamais dit, d'autres au contraire vont dire que cette démarche leur est impossible. Donc il y a toute là aussi une variation dans la mise en mots des humiliations subies, des sentiments d'injustice, de révolte qu'elle a suscité. Les modalités selon lesquelles la souffrance sociale est socialisée, exprimée, et souvent en filigrane, les conséquences que ça a dans la modification du rapport au monde social et politique. On voit là par exemple que beaucoup de lecteurs rejettent, comme Annie Ernaux, l'interprétation psychanalytique, préfèrent l'interprétation sociologique, mais d'une certaine manière, la lecture des ouvrages d'Annie Ernaux, comme parfois le fait d'entreprendre une cure analytique, ne va pas se convertir immédiatement dans du militantisme, par exemple. C'est comme si la lecture se suffisait en soi comme élément de pacification, de réconciliation, dans un certain nombre de cas, avec les origines. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que Annie Ernaux, d'une certaine manière, met en mots son destin social, mais plus généralement, un destin social épistémique. Et du coup, ces lecteurs qui jusqu'à présent vivaient leur honte sociale de manière isolée, ils se vivaient comme des cas uniques, ont le sentiment d'appartenir à une communauté plus vaste, dont ils ont du mal à mesurer les contours, ils se sentent moins isolés socialement, et pour un certain nombre d'entre eux, ça se traduit par le fait de diriger Annie Ernaux comme porte-parole de ce groupe découvert et par ailleurs probablement en partie fantasmé parce qu'on peut penser quand même que les lecteurs qui lui écrivent sont aussi ceux en partie dont la trajectoire sociale est la plus proche d'elle et donc qui ne sont pas forcément représentatifs de tous les lecteurs. En tout cas de manière générale, hein, on peut dire que le fait d'écrire à l'écrivain suscite dans un public plus ou moins lettré un désir de parole accéléré par la lecture qui va se manifester par l'écriture. On s'autorise, on s'excuse beaucoup de s'autoriser, mais on s'autorise quand même. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi beaucoup de sentiments intériorisés, de malaise face à la culture écrite. Donc, beaucoup s'excusent pour leur orthographe défaillante, pour leur style défaillant. D'ailleurs, on constate que plus ils s'excusent, plus l'orthographe est bon. C'est ceux qui ne s'en excusent pas qui font le plus d'erreurs. Bon. Mais voilà, enfin, on sent que cette démarche en fait, ne va pas du tout de soi. Donc tout ça fonctionne vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour commencer, une forme de don reversé. C'est une manière de rendre à l'écrivain ce que les lecteurs ont le sentiment qu'elle leur a apporté. Donc je l'ai dit, plus l'homologie de position entre Annie Ernaux et le lecteur est forte, plus les dérivés de trajectoire sont proches, et plus évidemment l'identification fonctionne à plein. Voilà, alors globalement, ce travail m'a permis d'appréhender les processus pluriels d'identification qui sont souvent appréhendés d'une manière assez pauvre, là dans leur dimension complexe, hein, créatrice, active, sans en même temps, alors je l'ai dit pour commencer, à la fois les propriétés sociales des scripteurs m'intéressaient, pour moi c'était une étape absolument essentielle, qui me permettait justement ensuite de préciser, d'affiner les appropriations concrètes, et en même temps, dans un certain nombre de cas, sans m'interdire de saisir parfois la spécificité, la singularité des cas qui étaient évoqués. Du point de vue de la science politique, parce qu'il y avait aussi des enjeux pour moi, vu que j'étais effectivement inscrite et que ça n'allait pas de soi, enfin, un certain nombre de collègues à l'époque, moins maintenant, mais je pense que ça serait toujours pas simple, c'était de montrer que le processus de socialisation politique se poursuit tout au long de la vie d'un individu et qu'il peut passer par des canaux qui ne sont pas a priori politiques. Alors c'est d'autant plus vrai avec Annie Ernaux que effectivement on a une analyse, une écriture qui est sociologiquement instruite, mais qui se présente d'abord et avant tout comme littéraire. Et donc elle fait passer un certain nombre de schèmes d'appréhension du monde social sous couvert de la littérature, en faisant en sorte que son écriture soit la plus simple, la plus appréhendable par tout le monde, et du coup elle fait passer un certain nombre d'idées. Donc il me semble que tous ces mécanismes de consolidation, de transformation de rapport aux politiques qui passent par des supports qui sont peu politiques au sens militant du terme a priori, peuvent renseigner aussi sur les conditions d'émergence d'un sentiment d'appartenance à une classe, en l'espèce par exemple les transfuges. Voilà, alors bon, y a l'appréhension des enseignants de français dont je parlais tout à l'heure de ce point de vue est tout à fait particulière aussi. C'est pas n'importe quels enseignants français qui décident d'intégrer Annie Ernaux dans leur manuel, c'est aussi des transfuges de classe, mais pas n'importe lesquels. Et puis par ailleurs, il y a cette autre dimension que j'ai pas du tout abordée, qui concerne plus la réception de Passion simple, par exemple, où là, la dimension sociale est plus diffuse, parce que Passion simple apporte aussi à Annie Ernaux un public nouveau qu'elle n'avait pas jusqu'à présent, qui du coup ne voit pas de rupture par définition entre Passion simple et les ouvrages antérieurs qu'ils ne connaissent pas, et qui n'aborde pas du tout Passion simple sous l'angle social du transfuge, qui est pourtant présent aussi dans Passion simple. Eux, ils l'abordent sous l'angle de la passion amoureuse. Donc là, on a un lectorat qui est globalement plus doté, économiquement en particulier, mais aussi socialement, plus généralement. Un lectorat qui est aussi plus jeune, dont je l'ai dit, la moitié des hommes écrivent pour cet ouvrage. Et là, il y a une dimension de genre très importante, hommes et femmes ne s'approprient pas passion simple de la même manière. Donc là, il y a une autre dimension que je n'ai pas le temps d'aborder, peut-être qu'on en parlera après, mais qui vient se surajouter, qui en même temps est partiellement différente de celle des ouvrages sociaux de l'écrivain. Alors, par contre, tous ceux qui la connaissaient d'avant Passion simple, enfin beaucoup en tout cas, continuent de lui écrire pour Passion simple, et eux par contre font une filiation avec les ouvrages antérieurs, sont moins intéressés par le thème de la passion amoureuse, mais par exemple dans Passion simple vont retenir des passages qui ont posé problème aux critiques, lorsque Annie Ernaux dit lorsque j'étais en état de passion amoureuse, j'écoutais Sylvie Vartan et ça me parlait beaucoup, je lisais mon horoscope, je faisais des vœux, voilà. Donc des comportements hérités de son enfance en milieu populaire. En fait, c'est ces aspects-là que les lecteurs qui l'avaient lu avant retiennent. La dimension passion amoureuse les intéresse moins. Mais ceux qui la découvrent, effectivement, sont plus intéressés par la dimension passion amoureuse. Et là, il y a un clivage en termes d'appropriation très marqué par le dimorphisme sexuel. Alors, je vais m'arrêter là.